Maintenant, trêve d'anecdotes, je présente Gengis Akhtar. Donc, il est diplômé du lycée de Galatasaray et de l'université de Paris 1. Vous aurez l'occasion de voir que tous nos interlocuteurs sont francophones et qu'il y a une tradition francophone en Turquie, notamment via ce lycée de Galatasaray. Galatasaray, c'est pas seulement une équipe de foot. Hein. Il est donc diplômé de Galatasaray et de l'université de Paris 1, docteur en économie de la même université, ancien administrateur aux Nations Unies, où il a passé une grande partie de sa vie professionnelle. C'est un des principaux avocats de l'intégration de la Turquie avec l'Union européenne. Et sa réflexion porte sur les bénéfices de cette intégration, aussi bien pour la Turquie que pour l'Europe et le voisinage. Et il tient régulièrement une chronique radiophonique sur les développements en rapport avec l'Union européenne, écrit dans les quotidiens turcs, Vatan et Turkish Daily News. Il enseigne plus différents cours sur les politiques de l'Union européenne aux universités de Galatasaray et Başakşehir à Istanbul, etc., etc. Il a été à l'origine du mouvement européen 2002 pour encourager le législateur à accélérer les réformes d'ordre politique de façon à pouvoir accéder à la phase des négociations. En décembre 2008, il a été à l'origine avec d'autres intellectuels d'une campagne de pardon sur l'Internet à l'adresse des Arméniens. Bon, je termine là-dessus et je signale ses publications, bien sûr de nombreux articles de presse, des articles savants aussi. Il a publié 6 livres, dont 2 en français, « L'occidentalisation de la Turquie », l'Armatan en 1986, et plus récemment, chez Actes Sud, en 2004, « Lettres aux turco-sceptiques ». Donc je lui donne la parole, selon nos bons usages, pour une 50aine de minutes, et peut dépasser aussi, sur la Turquie et l'Union européenne, et bien sûr, ensuite, ce sera le temps des questions. Voilà, merci.
Merci Yves, merci, bonsoir. En fait, c'est la deuxième fois que vous me donnez la parole. La première fois, c'était en novembre 2000, lorsque j'étais convié à parler exactement du même sujet, dans le cadre de l'Université de tous les savoirs, qui redémarrait là. Et 9 ans se sont écoulés. Alors, puisqu'on est dans l'histoire, faisons un rappel historique de cette relation Turquie-Union européenne, parce que franchement, on peut qualifier cette relation d'historique. Et là, elle a eu 50 ans cette année, 31 juillet 1959, 31 juillet 2009. Donc 50 ans que la Turquie est en rapport direct avec l'Union européenne, avec des hauts et des bas, bien sûr. Il faut situer cette relation dans le contexte de l'après-guerre, hein, fin de la guerre, division de l'Europe, Yalta, la guerre froide, bien sûr, et dans le flanc sud-est de l'Europe, il y a 2 pays qu'on a systématiquement, que l'Occident, ou ce qu'on appelait à l'époque le monde libre, prenait par la main, la Grèce et la Turquie, pour les mener dans les institutions européennes de l'époque. Alors la Grèce et la Turquie ont ainsi rejoint le Conseil de l'Europe en août 1949, l'OTAN en 1952, et puis en 1959, tous les deux ont signé un accord avec la communauté économique de l'époque. L'un s'appelait, plus personne ne s'en rappelle, accord d'Athènes, et l'autre s'appelle accord d'Ankara, tout simplement. Alors cet accord d'Ankara, qui est l'acte qui est toujours valable, l'acte originel, et enrichi d'un protocole en 1970 qui est entré en vigueur en 73. Je vous donne ce détail, vous allez voir pourquoi bientôt. Et puis un long silence presque jusqu'en 1987. Parce qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses en Turquie. Il y a eu 3 coups d'État, 1960, 71 et 80. Dès le retour à la démocratie en 1983, le gouvernement civil, non militaire de l'époque, a décidé de relancer le processus européen. La Turquie a fait acte de candidature en 1987. Il faut voir là un découplement un découplement avec la Grèce. La Grèce, entre-temps, a fait d'autres pas, il s'est débarrassé du régime des colonels en 1974, après le coup à Chypre, et est allé très vite, grâce au Premier ministre Karamanlis, vers l'Europe, et qu'elle a rejoint en 1981. Alors ça, c'est évidemment... Ça a fait tiquer beaucoup de monde parmi les politiques en Turquie, voyant que le couple turco-grec ou gréco-turc, eh bien, ça ne fonctionnait plus comme avant, en tout cas par rapport à l'Europe et aux institutions européennes. Alors, ce découplement, oui, et puis retour donc à la démocratie parlementaire. Donc, candidature du gouvernement Özal de l'époque en 87, rejetée par l'Europe en 89 pour rappeler à la Turquie qu'elle n'était pas prête, qu'elle n'était pas du tout prête pour rejoindre l'époque. Alors, désillusion, évidemment. Alors que la relation, elle était déjà ancienne à l'époque, arrive sur la scène un homme politique important que vous connaissez tous, le feu Premier ministre Raymond Barr. Raymond Barr, qui était un ami de la Turquie, en tout cas quelqu'un pour qui l'intégration de la Turquie et l'Union européenne comptait. Eh bien, Raymond Barr a conseillé au gouvernement turc à l'époque de relancer une clause que, entre-temps, tout le monde avait oubliée, qui était dans le protocole additionnel dont je vous ai parlé, qui était entré en vigueur en 1973. Eh bien, ce protocole disait « La Turquie et la communauté économique vont conclure, au plus tard dans 22 ans, une union douanière ». Alors, 1973 plus 22, 1995... Voilà le sage politicien Raymond Barr qui a rappelé aux Turcs, eh bien, dépêchez-vous, concentrez-vous sur la conclusion de cet accord douanier. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Et en 1995, en fin d'année, la Turquie a brillamment conclu un accord douanier avec l'Union européenne qui reste après l'accord d'Ankara de 1963, vraiment un acte fondamental, majeur, très concret, et qui a beaucoup, beaucoup de poids dans les relations encore actuelles aujourd'hui de l'Europe et de la Turquie. Juste un rappel, le premier... L'Europe des 27 est le premier fournisseur de la Turquie à la hauteur de 65-70% de son commerce. Et donc, un accord douanier qui entre en vigueur le 1er janvier 1996. Je voudrais m'appesantir un peu sur cet accord douanier parce que ça fait peut-être que ça va faire tache d'huile dans la région, en tout cas dans la Méditerranée. C'est pas un simple accord commercial, n'est-ce pas? On vend les laisser passer, les laisser faire. Non, c'est un accord intéressant. Qui, au lieu de vendre ou de donner du poisson, apprend à pêcher le poisson, comme on dit. C'est-à-dire, pour pouvoir exporter, la Turquie a dû revoir de fond en comble son parc industriel. Et aujourd'hui, les méganes, par exemple, juste pour donner un exemple, sans faire de la publicité, sont fabriqués en Turquie. Pourquoi? Eh bien, grâce à cet accord douanier. Maintenant, toutes les lignes de production des usines en question fonctionnent selon les normes de l'acquis communautaire, c'est-à-dire de la législation en vigueur concernant la production d'automobiles. Donc, transformation de l'industrie turque grâce à cet accord douanier qu'on cherche d'ailleurs à démultiplier un peu dans la région, notamment au Maroc, par exemple, et cet accord douanier, on l'espère, fera probablement, deviendra un modèle pour la Méditerranée, dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée un jour. Je voudrais signaler aussi, c'est un chiffre important, cet accord douanier existe depuis 96, 13 ans, pour dégager un excédent commercial au profit de l'Europe de l'ordre de 8 milliards d'euros par an à peu près, ce qui n'est pas négligeable. En fait, c'est déjà un partenariat privilégié. Vous avez probablement entendu parler de ce terme. Personne n'a réussi à dire ce que c'était exactement. Moi, je vous le dis, voilà, cet accord douanier qui existe entre l'Europe et la Turquie, et l'Union européenne et la Turquie, c'est déjà voilà, le partenariat privilégié, il est là. Alors, entre-temps, évidemment, le mur a chuté, le rideau de fer s'est ouvert, et il y a une nouvelle donne pour tous ceux qui veulent devenir membres de l'Union européenne. Les règles du jeu de l'adhésion ont changé. L'Europe a inventé ce qu'on appelle les critères de Copenhague, qui datent de juin 1993. Il y a un acquis communautaire maintenant, c'est-à-dire la législation sur toutes sortes de sujets, la politique agricole, les transports, l'environnement, etc., beaucoup plus épais que ce que les Danois, Irlandais et Anglais ont dû subir quand ils ont postulé à l'Union au début des années 70. Eh bien, beaucoup bien plus exigeant, donc il faut beaucoup travailler et ardu, difficile. Alors, mais ces règles-là étaient conçues, je répète, pour l'autre Europe, c'est-à-dire l'Europe centrale et orientale, ceux dont on s'est séparés à Yalta, et pas vraiment pour la Turquie. En tout cas, c'est ce que une fois l'Europe a dit en 97. Fin de l'année, à Luxembourg, la Turquie ne comptait pas parmi les futurs membres de l'Union. Entre-temps, les choses ont changé. En 2 ans, l'Europe s'est reprise grâce à des politiciens importants grecs qui ont changé complètement de position par rapport à la Turquie. Alors que les précédents gouvernements préféraient garder la Turquie à distance, le gouvernement de Monsieur Simitis et de Papandreou, qui était son ministre des Affaires étrangères à l'époque, et qui est maintenant, depuis quelques jours, comme vous savez probablement, le nouveau Premier ministre grec, eh bien, la Grèce de Simitis Papandreou a changé de position par rapport à la Turquie pour la convier à la nouvelle Europe. Un autre politicien important, évidemment, qui vous est fort familier, c'est le président Chirac. Le président Chirac a joué un rôle fondamental dans la décision de Helsinki de 1999 qui a reconnu à la Turquie le même droit à devenir membre de l'Union européenne en vertu de l'accord d'Ankara, mais aussi en vertu des nouvelles règles du jeu qui se sont dessinées après la chute du mur. Le président Chirac, à l'époque, était très bien conseillé, aussi bien au niveau de Paris que d'Ankara. Et il a pris cette décision, appuyé les autres pays membres de l'Union. Ils étaient 15 à l'époque, pour donner le feu vert à la Turquie. Alors, débute à cette époque donc une période faste dans les relations Europe-Turquie, une batterie de réformes, 8 paquets législatifs couplés de réformes économiques. La Turquie, très vite, devient un pays reconnaissable, avec 2 gouvernements successifs, donc l'actuel et un gouvernement de coalition qui ont fait un travail quand même titanesque. et pour transformer à la fois la politique, comme on dit, l'économie, la société, de fond en comble. Eh bien, cette période faste a été couronnée de succès, et le 17 décembre 2004, la Turquie a été considérée comme ayant suffisamment fait de progrès. Vous m'entendez toujours? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Je ne parle pas. Ah, voilà. Donc, la Turquie a été considérée comme ayant... Oui, oui, oui. Ça c'est le... C'est le bloc identitaire, ça. Bon.
Oh, est-ce que...
les dépliants, là.
Là, les aimables personnes en haut n'ont pas apparemment assisté au début de ma présentation, où je rappelais les principes de l'Université de tous les savoirs, qui existe depuis 10 ans, qui a fait plus de 700 conférences sur tous les sujets, je dirais, possibles et imaginables, et qui est un lieu... Et qui est un lieu d'exploration, de réflexion et de discussion. Alors, si vous avez quelque chose à dire, vous pourrez le dire, vous pourrez poser des questions, vous pourrez dire, par exemple, pourquoi la Turquie, non merci, mais quand vous aurez entendu la conférence, puisque notre tradition aussi ici, et il faudrait quand même que vous vous le mettiez dans la tête, c'est qu'après la conférence, toute personne, quelle qu'elle soit, peut poser sa question. Depuis les questions les plus simples, les plus intelligentes, jusqu'aux plus stupides. Hein ? Tout est permis, à condition qu'on soit à peu près courtois et qu'on soit à peu près tolérant. Alors, ce que je vous demande, c'est d'avoir 30 minutes, hein, peut-être, 35 oui. minutes de patience, et puis après, vous nous direz ce que vous avez à dire. Hein ? Et donc, je compte sur vous pour respecter nos règles. Il y a quand même 10 ans... que des dizaines de milliers, même je dirais maintenant des centaines de milliers de personnes suivent ce que nous faisons. Nous exportons notre modèle dans beaucoup de pays. Alors s'il vous plaît, je veux dire, quelles que soient vos convictions, écoutez et après vous discuterez. Merci.
Voilà, merci Yves. Alors, je disais, 17 décembre 2004, étape importante des relations entre l'Union et la Turquie, parce que là, les pays membres de l'Union européenne ont décidé que les pays avaient fait suffisamment de progrès, avaient donné suffisamment de preuves pour aller à la phase finale, c'est-à-dire des négociations pour devenir membre de l'Union européenne. Alors, quand on prend un peu de recul maintenant, 1999, début vraiment de la nouvelle relation, parce que je mets de côté la période 59 à 99. Donc ces 10 années, pendant ces 10 années, la Turquie s'est, je disais, littéralement transformée. Tout est maintenant sur le tapis. Les tabous ne sont plus intouchables. L'économie est en plein essor et la société en pleine mutation. Il faut souligner là l'importance de la synergie qui a été créée entre le désir de changement à l'intérieur avec le vent européen qui soufflait. Un peu comme dans le temps pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal dans les années 80, et plus récemment avec les pays de l'Europe de l'Est. Donc cette force de transformation de l'Europe, je crois qu'elle est, elle est extrêmement importante. Les Anglais disent « soft power », moi je préfère dire « force tranquille », pour me rappeler d'un illustre politicien français. Voilà, je crois que le succès est partagé, là, le succès de l'Europe, qui avait vu juste, hein, mais aussi le succès d'un gouvernement turc, musulman-démocrate, de la société turque, qui a pu mettre en œuvre son désir de changement. Et voilà le résultat. Le résultat aujourd'hui, une Turquie totalement transformée grâce à cette dynamique à la fois interne et externe. L'Europe, quand elle prenait cette décision de composer avec ce pays différent quand même, eh bien, c'était pas un acte charitable, c'était très réfléchi. Les mobiles de l'Europe étaient bien là, c'était des mobiles rationnels. D'abord une vision philosophique, je dirais, parce que après l'autre Europe qu'on avait perdue à Yalta, accepter de composer avec l'autre de l'Europe, avec un grand A, eh bien, signifiait un défi immense, dont probablement la portée dépassait et dépasse encore, à mon avis, les protagonistes. Bien, parce qu'après tout, l'Europe est en train de composer avec la figure séculaire de l'altérité, l'héritière d'un empire ottoman qui a été porte-flambeau d'un islam conquérant. Eh bien, tout ça, ça demande du courage politique, une solide vision de l'Europe, une Europe qui serait capable d'intégrer la différence tant que cette différence se prévaut de principes politiques commun. Je crois que c'est extrêmement important. Alors, cette politique rationnelle, évidemment, elle se basait aussi sur des intérêts communs et réciproques. On pensait, bien sûr, que le flanc sud-est, avec l'arrivée de la Turquie, allait se consolider. Une stabilité turque, économique et politique, eh bien, allait aider l'Europe. Allait aussi servir la paix et la stabilité de l'Europe. Ancré à l'Europe et membre de l'Union européenne, ce pays pouvait aussi devenir un modèle, un pôle d'attraction pour les pays du sud de la Méditerranée, du Moyen-Orient et du Caucase. Y exporter sa stabilité. Et c'est ce qu'on est en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Le monde arabe, j'aime pas trop cette expression, mais le monde arabe, en effet, suit l'aventure de la Turquie de très très près. Pour eux, c'est un bon exemple pour dire qu'on peut être à la fois musulman et moderne, hein, que ça ne s'explique pas mutuellement. Eh bien, on peut être différent, on peut rester différent, mais on peut devenir européen. Et puis, l'arrivée de la Turquie pour le monde arabe et musulman aidera en tout cas à une meilleure compréhension de l'islam en Europe. C'est pas moi qui le dis, c'est pratiquement toute la frange libérale de l'intelligentsia arabe qui était d'ailleurs présent le jour où on a pris cette décision est importante, le 17 décembre 2004, pour accepter la Turquie, donc pour qu'elle puisse commencer ses négociations avec l'Europe. 200 journalistes et hommes politiques qui étaient prêts à Bruxelles pour suivre l'événement, c'est pas rien. Eh bien, de même, des questions en suspens entre l'Europe et la Turquie. La situation à Chypre, Yves Michaud en a parlé, on va en parler dimanche. Les disputes avec la Grèce, la question kurde, la migration clandestine. Eh bien, on s'est dit peut-être qu'il vaut mieux avoir la Turquie à l'intérieur que de la garder à l'extérieur pour résoudre tous ces problèmes-là. les avantages potentiels d'une population jeune, l'attrait économique d'un marché non saturé de 75 millions de consommateurs, ça aussi on va en parler, il y aura deux sessions sur l'économie, les économies d'échelle dans le voisinage immédiat et asiatique, la valeur stratégique de la seconde armée de l'OTAN, c'est pas rien, et puis la position géostratégique sur les routes de l'énergie de ce pays. Tout ça, je crois, a compté, et d'ailleurs pour les routes de l'énergie, on vient de signer un accord important avec quatre pays de l'Union européenne, un projet qui s'appelle Nabucco, qui fait un peu le pendant à toutes les routes tenues par la Russie. Alors, voilà un peu les raisons, les mobiles qui étaient derrière cette décision de convier la Turquie à la nouvelle Europe. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Je crois que ce conte de fait s'épuise en tout cas en Europe pour laisser la place au doute, voire même au mépris, à l'ignorance. Je voudrais en dire deux, trois mots. Aujourd'hui, la Turquie, et surtout en France d'ailleurs, est traitée comme un fardeau, n'est-ce pas? Un fardeau, quelque chose qu'on va devoir porter pendant des dizaines d'années, un dossier de management de crise en fait. Alors de quoi il s'agit-il? Alors, il y a beaucoup de clichés qu'on entend à ce propos. Je voudrais en citer quatre. Ce sont des arguments d'ordre matériel qu'on trimballe, dont la presse use et abuse. Alors, par exemple, celui-ci. 80 millions d'habitants, 80 millions de Turcs affamés qui sont aux portes de l'Europe. Qui sont là avec leurs baluchons, prêts à prendre le départ pour aller vers l'Europe, etc. Bon, d'abord, il n'y a pas 80 millions de Turcs, il y en a moins. Bon, le taux de natalité tend vers des moyens des pays européens. Et puis, ces Turcs, est-ce qu'ils vont vraiment migrer? Alors, prenons l'exemple sur ce qui s'est passé avec nos amis espagnols, grecs et portugais. Je me rappelle exactement du même débat dans les années 70-80. On attendait les Espagnols, tellement on les attendait qu'on leur a collé une période transitoire de 12 ans avant de pouvoir venir s'établir dans les autres pays de l'Union européenne. Eh bien, les Espagnols, non seulement ils sont pas venus, mais ils sont rentrés chez eux parce que, évidemment, il était beaucoup plus intéressant de vivre en Espagne et sur la côte, la Costa Esmeralda par exemple, que de vivre ou de faire un travail ingrat à Hambourg. Eh bien, moi je pense que la même chose arrivera pour la Turquie. Le coût de la Turquie. Alors, il y a plein de chiffres qui flottent dans l'air. Certains parlent de 30 milliards d'euros annuels, etc. Eh bien, le chiffre le plus raisonnable tourne autour de 14 milliards. Et c'est pas maintenant, hein. C'est les fonds structurels commencent une fois qu'on devient membre. Eh bien, 14 milliards. Il y aura plus de subventions agricoles à l'époque parce que tout change, tout sera chamboulé à partir de 2013. Et il faut comparer ce 14 milliards d'abord avec ce qu'on vient de dilapider avec la crise et puis surtout avec ce que la Turquie dégage comme excédent en faveur de l'Europe depuis 1996. Donc tout est relatif. Et puis finalement, autre cliché pour faire peur, eh bien le Parlement européen. On dit le Parlement européen, c'est le pays le plus, ça sera le pays le plus peuplé et celui qui aura le plus de poids dans les institutions européennes. Ah, voyons. Eh bien, le nouveau traité de Lisbonne, qui, j'espère, deviendra réalité très vite, si le jour où le président tchèque Václav Klaus va finalement le signer, j'espère. Eh bien, ça plafonne le nombre de députés européens à 96. Même si on a 180 millions d'habitants, on aura 96 députés, point, et c'est tout. Et puis dans le Parlement européen, eh bien, on vote pas nationalement, on vote par groupe. Les socialistes turcs votent avec les autres socialistes européens, et les musulmans démocrates votent avec les chrétiens démocrates, même s'ils sont pas très contents, enfin pas tous. Mais voilà, donc on vote par groupe, on vote pas nationalement. Les eurodéputés européens ne votent pas en tant que Français, ils votent en tant que députés européens appartenant à des groupes politiques différents. Donc, une série d'arguments d'ordre matériel qui, finalement, après réflexion, franchement, ne tiennent pas tellement. Mais il y a d'autres arguments d'ordre plutôt spirituel, sinon idéologique, et là, c'est probablement là où le bât blesse. Bien, on part très souvent d'un syllogisme tout à fait classique. L'islam, bien sûr, pose problème. Eh bien, on dit, voilà, l'islam est dangereux, les Turcs sont musulmans, les Turcs sont dangereux. Franchement, c'est aussi simple que ça, et souvent, le débat reste fourvoyé dans ce syllogisme dont on a beaucoup de mal à s'en sortir. Je crois que le débat d'aujourd'hui, le débat européen d'aujourd'hui, quand on regarde autour, maintenant j'espère que ça va redémarrer avec le traité de Lisbonne, l'Europe va reprendre du poil de la bête. Je l'espère vraiment. Mais quand on voit depuis l'arrivée des Bulgares et des Roumains en 2007, on voit un essoufflement de cet esprit de solidarité que j'appelle l'esprit de Laeken, qui soufflait sur l'Europe après 89. On a beaucoup de mal à évaluer l'importance de ce qu'on a réussi après 89, en fait. Peut-être avec l'exception de la Yougoslavie, malheureuse d'ailleurs. Eh bien, on a réussi à intégrer ou à réintégrer l'autre Europe, vraiment à moindre coût. On n'a pas dépensé beaucoup d'argent, contrairement à ce que les politiques racontent. On a dépensé le 20e de ce que les Américains ont déversé sur l'Europe avec le plan Marshall, par exemple. Eh bien, on a réussi à y établir la paix et la stabilité, et c'est vraiment précieux. Eh bien, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, au contraire, l'élargissement est présenté comme un cauchemar, et que les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, tout ça, c'est des gens qui vont venir manger notre pain blanc. Eh bien, c'est pas du tout comme ça. D'abord, ils viennent pas, et puis, mon Dieu, et on a évité après la chute du communisme le pire, c'est-à-dire la guerre généralisée dans l'est de l'Europe. Bon. Voilà des débats qui n'ont jamais lieu, un peu comme le débat sur et à travers la Turquie. Eh bien, je voudrais dire, j'ai encore un peu une dizaine de minutes ou cinq minutes, oui. Eh bien, quand on regarde aujourd'hui le débat européen, fatigue de l'élargissement, c'est devenu un terme vraiment consacré à Bruxelles. Non, ne nous parlez pas de l'élargissement, c'est trop coûteux, etc. Et puis, les limites de l'Europe et l'identité, alors les frontières de l'Europe. Moi, je suis d'avis que, évidemment, ce sont des débats tout à fait légitimes, l'Europe ne peut pas s'étendre éternellement vers l'Asie, vers le Sud, etc. C'est vrai. Eh bien, mais le problème, c'est que ces interrogations sont mues plutôt par l'anxiété et ont beaucoup de mal à saisir le réel d'aujourd'hui. Parce que, après tout, les sociétés européennes dont on veut garder l'identité, il y a un bloc identitaire qui était à une de mes réunions à Bordeaux il y a 3 semaines, bloc identitaire. Alors, l'identitaire, moi, je sais plus ce que c'est dans une Europe vraiment de plus en plus multiculturelle. Et finalement, ces frontières de l'Europe dont on en veut impérativement, je pense que elles seront, ces bornes seront tracées plutôt par la capacité de l'Europe à apporter la paix et la stabilité dans son voisinage, parce que franchement, je n'imagine pas une seconde une Europe comme une maison de poupée où il se passera rien et tout sera calme et sérénité, alors qu'il y aura le feu dans tout le pourtour. Je crois que c'est un projet politique, c'est ni un projet économique, ni un projet culturel, ni un projet géographique, encore moins historique, mais un projet réellement politique, digne de ce nom, qui a fait ses preuves jusqu'à présent. Je crois que l'arrivée de la Turquie dans cette nouvelle Europe est quelque chose d'important, et il faut que le débat puisse continuer, quelle que soit l'issue de la candidature de la Turquie, dans l'intérêt de tout le monde. Je vous remercie.
Alors, nous allons passer aux questions. Je suppose qu'il risque d'y en avoir beaucoup. Donc, ce que je vous demande, c'est de les faire assez brèves, de manière à ce qu'on vous donne des réponses, hein, qui vous satisferont ou non, mais de manière à ce que ça circule. Hein. Donc, voilà. Je ne sais pas laquelle on va prendre en première. Il y a un monsieur, là. On va prendre tout de suite monsieur, là. Voilà. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. Hein.
Bon, merci de donner la parole. Ma question sera courte. Ne pensez-vous pas, monsieur, qu'avant d'adhérer à l'Europe, compte tenu que l'Europe désire l'adhésion de pays libres, qu'il ne faudrait pas régler le problème de Chypre et le problème des Kurdes ?
Oui, bien.
Absolument. Et c'est ce que... C'est exactement ce que le gouvernement et la société civile sont en train de faire. Moi, je vois pas comment la Turquie pourrait adhérer avant de régler le problème à Chypre. La réunification de l'île est quelque chose de très important. On va en parler dimanche. L'ancien président de la République de Chypre, Monsieur Vassiliou, sera là parmi vous, avec Monsieur Turkmen, ancien ministre des Affaires étrangères, qui connaît très bien le sujet. Les pourparlers continuent entre le président Talat et le président Christofias. Je pense que le nouveau gouvernement grec de PASOK, de Monsieur Papandreou, va s'y employer pour faciliter la tâche. Et en tout cas, tous les ingrédients sont réunis pour une solution, j'espère, à Chypre, assez vite d'ailleurs. Et puis, idem pour la question kurde, qui est un problème épineux, qui traîne depuis des dizaines d'années, sinon depuis la création de la République de Turquie en 1923. Je crois que l'État, le gouvernement, les autorités ont compris que ce problème ne pouvait pas être résolu, un peu comme le problème de l'Irlande du Nord, d'ailleurs, par la force. Et je crois que maintenant, toutes les forces vives de la Turquie s'emploient pour résoudre ce problème à travers le dialogue et la consultation. Et il y a un nouveau processus qu'on appelle l'ouverture kurde en Turquie, qui a démarré à peu près 2 mois. Problème, on n'en parle pas assez en France, malheureusement. Je crois que c'est quelque chose d'important, dont j'espère est l'issue. Mettra un terme à ce grand problème, c'est vrai. Et il faut voir que ça cadre. Je vous ai dit tout à l'heure que tous les tabous tombent maintenant en Turquie. Il n'y a plus un seul tabou indiscutable. Eh bien, tous les tabous sont là. Et le problème kurde en fait partie. Et Dieu merci. Voilà.
Deuxième question. Allez-y.
Bonsoir. Moi, je suis polonaise. Et comme vous avez bien dit tout à l'heure, la Pologne fait partie de l'Union européenne depuis 5 ans. Les Polonais et moi personnellement, très contents et fiers.
Oui, ça y est, je l'ai entendu. Oui.
C'est nous qui avons entendu, on vous entend, on a un mauvais retour.
Oui. Voilà.
Je recommence.
Vas-y.
Et donc, oui, je disais que, étant polonaise, je suis fière et heureuse de faire partie de l'Union européenne. Et je pense que c'est vrai pour la plupart des Polonais. Outre les bénéfices économiques, je pense que, étant polonais, on est très attaché aux valeurs fondamentales de l'Union, c'est-à-dire l'Union a été fondée pour empêcher les erreurs et les horreurs du passé, je pense à Auschwitz et autres camps. Et voilà, donc le travail de la mémoire hein, qui est très important. Et ma question est-ce que c'est vrai qu'en Turquie, il existe des musées négationnistes qui présentent le génocide arménien comme le génocide perpétré par les Arméniens sur les Turcs? Et si oui, est-ce que l'adhésion de la Turquie ne serait pas en contradiction aux valeurs de l'Union européenne?
Voilà, alors...
D'accord, très bien.
Alors, pareil, je répète, aucun tabou n'est plus de mise. On parle de tout, y compris du génocide arménien. Alors, vous m'avez posé la question de savoir si en Turquie, on disait plutôt le contraire, c'est-à-dire si les Turcs étaient génocidés, eh bien, ou ont subi un génocide, eh bien, les Turcs sont encore là, les Arméniens n'y sont plus. Donc, je crois que c'est très clair. Ce débat commence à peine, c'est important. Ce soir, la une du Monde est concernée au nouvel accord que les deux pays, le gouvernement, hein, pas la société a démarré cette remise en question depuis très longtemps. Je parle de la société turque, mais les gouvernements de l'État arménien et de l'Arménie et de la Turquie ont sur le point de signer un accord diplomatique pour normaliser les relations. C'est un long processus, ça prendra du temps, mais comme je disais, tout se discute et tout va continuer à se discuter en Turquie. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a ici? Après, on aura en haut. Hein. Ici, allez-y.
Bonjour, monsieur. Alors là, quand je regarde autour de moi, je vois beaucoup de vieux. Et
attendez.
Et donc,
oui.
J'ai comme l'impression que la jeunesse européenne n'est pas vraiment concernée par cette question d'entrée de la Turquie. Alors moi, je vais vous donner le message de la jeunesse européenne, et je vais vous le donner sous le symbole de cette friandise, de cette viennoiserie, le croissant, donc symbole de la victoire de l'Europe contre les Turcs, que je vous offre, monsieur.
Bon, mais alors, à part ça, vous avez quoi à dire?
Timéo Danaos Dona Ferentes, je redoute les Grecs quand ils m'apportent des cadeaux. Ben, redoutez notre cadeau, monsieur.
Bon, allez,
écoutez. Redoutez notre cadeau. J'espère qu'il vous étouffera pas. C'est pas étouffe chrétien, je vous le rassure.
Si vous n'avez que ça.
Turquie, non, merci.
Alors, écoutez. Écoutez, un moment, on va... Chut. Bon, écoutez, après cet épisode à moitié drôle, on va continuer sur les questions, puisqu'il y en a là, hein, s'il vous plaît. Non, mais attendez, ça, moi, je suis ni fier. Vous avez raison de dire ce que vous dites, mais je suis ni fier ni honteux d'être français. Pour moi, ce moment, c'est pas la question. La question, c'est la prochaine question.
Bonsoir. Alors voilà, la jeunesse est également représentée par des personnes plus objectives. J'ai une question qui concerne l'OTAN. Est-ce que vous pourriez expliquer le fait que la Turquie ait une place si prépondérante dans l'OTAN et que cet argument ne fasse pas partie du débat sur l'entrée dans l'Union européenne?
Merci
bien. C'est C'est une question très importante, en effet, parce que depuis le refus français de 1954, la communauté de défense n'existe pas. Elle aura beaucoup de mal à exister. Eh bien, la politique européenne de défense, elle n'est pas prête à voir le jour de si près. Donc, du coup, dépendance importante vis-à-vis de l'OTAN et de tout ce que cette organisation représente. Eh bien, je vous répondrai en reprenant les arguments de ceux qui préfèrent octroyer un partenariat privilégié à la Turquie, un statut de seconde classe. Eh bien, ces gens-là disent justement que, du point de vue de la défense de l'Europe, la Turquie est très importante. Voilà, donc on ne veut pas de la Turquie à l'intérieur de l'Europe, mais on veut qu'elle continue à nous protéger. C'est un peu le raisonnement qui est derrière. Vous avez tout à fait raison. La Turquie fait partie de pratiquement toutes les missions de l'OTAN, qu'il s'agisse de l'ex-Yougoslavie ou aujourd'hui de l'Afghanistan. Et elle continuera. Elle continuera bien sûr dans les années à venir. Donc, c'est vrai que là, il y a on sélectionne ce qui a vraiment d'intéressant pour l'Europe, pour rejeter le reste. La question de la défense européenne, elle ne sera pas résolue malheureusement dans le cadre européen, mais dans le cadre de l'OTAN, et restera en tout cas dans le cadre de l'OTAN. Et tant qu'elle restera dans le cadre de l'OTAN, elle restera. Et la Turquie en fera partie forcément. Voilà.
Monsieur qui demandait la parole depuis longtemps là. Oui, c'est ça, au cinquième rang. Oui, on va vous donner la parole.
Merci. Paul Arnault, je voulais vous inviter à réagir à ce que je vais vous dire, monsieur. Ça faisait l'objet d'un... Comment ?
Non, allez-y, parlez.
Ça faisait l'objet d'un petit article de journal dans un journal gratuit il y a un an et plus. Les pays, une étude d'un sociologue dit, à propos des pays de l'islam, du charia, il a dit... les pays qui sont les plus libéralisés en matière de mœurs mettront quelque chose comme 50-60 ans à se modéliser sur des références de France ou d'Europe. Mais alors les pays qui sont les plus, on peut dire, intégristes, ils mettront 2-3 siècles. La Turquie, pays que j'apprécie, j'y vais pour des vacances, c'est merveilleux. La Turquie, pardon, est un pays traditionnel, traditionnaliste. Alors, comment vous réagissez à ceci? Le temps d'adaptation, va-t-il être long? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette étude?
On a compris, merci.
Je suis en train de vous dire depuis presque une heure que justement ce pays que vous appelez traditionnaliste, je ne sais pas ce que ça veut dire, eh bien, est en train de se muer, tout en restant traditionnel d'ailleurs, c'est important. Donc on peut être conservateur et moderne, après tout, les chrétiens démocrates de beaucoup de pays de l'Europe ne sont pas très différents. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment bien compris votre question. Oui, combien de temps? Moi, la mutation turque, elle n'est pas devant nous, elle est derrière presque. Donc, c'est un pays qui continue son avancée et puis qui a évidemment des retombées extrêmement importantes. C'est pourquoi j'ai insisté sur le monde arabe. Qui regarde de très près l'aventure européenne de la Turquie, de très très près. Eh bien, ça fait partie d'un débat permanent dans les journaux du Moyen-Orient et du Maghreb et du Mashrek, comme on dit, et parce qu'ils considèrent que ce que la Turquie est en train de faire et de réaliser... En fait, l'Europe et la Turquie ensemble sont en train de réaliser est extrêmement important pour leur propre transformation. Maintenant, pour faire une datation et pour donner une période, enfin un délai, franchement, je n'en sais rien. Peut-être
est-ce que tu as une idée.
Que je peux me permettre
de dire, non, mais c'est j'ai une indication à destination de monsieur. C'est dans ce cas-là, puisque j'ai eu la chance de l'avoir lu, venez jeudi prochain à la conférence du 15 octobre de Bruxelles sur sexualité et modernité.
Par exemple.
Non, mais c'est vrai. Je plaisante pas. Allez-y, ici. Voilà.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Mathieu Zeytin Gioglou. Donc j'ai un nom turc, comme vous pouvez le constater. Je suis français. Ça signifie fils du marchand d'olives, mon nom. Et j'étais en Turquie cet été. Et j'ai, pour répondre à la dame, parce que vous n'avez pas vraiment répondu à sa question de l'existence de musées négationnistes en Turquie, oui, j'ai vu des musées négationnistes en Turquie dans lesquels il est écrit qu'il y a eu un génocide, mais un génocide perpétré par les Arméniens sur les Turcs. Ça dépasse la question de... Je pense que c'est un État négationniste, la Turquie, à l'heure actuelle. C'est une évidence. Et... est-il normal qu'un État négationniste puisse rentrer dans l'Union européenne et que la France coopère à faire rentrer ce pays parce qu'elle a beaucoup d'enjeux économiques, parce que d'ailleurs c'est le plus grand investisseur en Turquie, c'est la France. Donc voilà.
Oui, c'est d'accord. Un peu court, franchement. Donc, soit vous ne m'écoutez pas, soit j'arrive pas à m'exprimer, soit je... Négationniste, bien sûr. Il y a un musée, enfin, il y a une baraque dans un village à l'est de la Turquie, à la frontière arménienne. Écoutez, je suis pas négationniste. D'abord, je ne représente pas l'État turc. Je représente moi-même. Attendez, ne discutez pas avec moi, je vous réponds. Et je représente pas l'État turc. L'État turc, je vous ai dit, c'est vrai, depuis 90 ans, on rejette le génocide arménien. Oui. Mais je vous dis aussi...
Oui.
C'est les Arméniens qui ont fait un génocide en Turquie.
Non, mais j'ai compris. Mais ça, c'est, il y a des groupes en Turquie qui prétendent, en effet, que ce sont les Turcs et les Kurdes qui ont subi le génocide. Mais ça, c'est seulement dans certaines villes à l'est pas dans toutes les villes de l'est. Si vous voulez, dans toutes les villes de l'est, mais pas dans toute la Turquie. Et il y a des gens qui prétendent que c'est l'inverse. J'ai répondu, mais vous, écoutez-moi, j'ai répondu en disant, en effet, oui, il y a des gens qui disent que c'est eux qui ont subi tous les torts. Et j'ai répondu en disant, c'est une ironie parce que les Turcs et les Kurdes sont encore là alors que les Arméniens ne sont plus là. Maintenant, je comprends que vous ne l'avez pas compris. Hein, voilà.
C'est clair, non? Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, allez-y, monsieur.
Bonsoir, Hussein Sim. En fait, donc après l'acceptation de la candidature de la Turquie suite au sommet de Helsinki en 1999, en 2000, on a créé le secrétariat général de l'Union européenne en Turquie. Et dans une de vos articles, dans une de vos chroniques, vous avez mis l'accent sur, disons, entre guillemets, la faiblesse de cette institution parce qu'elle était diminuée en termes de personnel, etc. Ma question, c'est-à-dire ma question est plutôt, qu'est-ce que vous pensez du dispositif institutionnel en Turquie, c'est-à-dire est-ce qu'elle est capable de gérer les négociations, parce que c'est un système assez complexe, donc j'aimerais bien savoir votre idée sur cette question. Merci.
C'est une question technique. En effet, le dispositif institutionnel, il n'était pas très très renforcé, très fort. Maintenant, le gouvernement fait un effort visible pour renforcer ce dispositif. Il y a depuis moins d'un an un ministre à plein temps qui s'occupe de l'Europe. Mais vous me permettez là vous me donnez l'occasion plutôt d'aller sur un point important de ces négociations qui ne vont pas très bien. Je voudrais juste rappeler que la Turquie et la Croatie ont commencé ensemble. Les Croates ont presque fini. La Turquie, sur 33 chapitres, n'a réussi à en ouvrir que 11. Alors, c'est pas brillant, mais il y a plusieurs raisons à ça. Et une des raisons tient au gouvernement français. Le gouvernement français actuel, depuis l'élection du président Sarkozy, a pris la décision de bloquer 5 chapitres sur 35 qu'on négocie pour devenir membre, parce que le gouvernement a décidé que la Turquie n'avait pas sa place en tant que membre pleine et entière dans l'Union européenne. Donc ça, évidemment, ça n'encourage pas le bon déroulement des négociations, et le cœur n'y est pas tellement, vraiment. Et c'est plutôt un disincentive, comme disent les Anglais, c'est-à-dire quelque chose qui n'incite pas, mais au contraire qui refroidit. Ça, il faut compter avec ça. C'est la position du gouvernement français. C'est une position qui nie la signature de la France depuis 1963, mais c'est comme ça, hein. On fait avec, on a pris note, et ces 5 chapitres, qui sont des chapitres importants, tant que ce gouvernement ne changera pas de position, ils ne seront pas ouverts pour les négociations.
Bien, nous allons prendre encore 2 questions. Je vous explique pourquoi, parce qu'il faut d'abord que tout ait une fin. Et puis comme c'est probablement toujours les mêmes questions qui vont revenir pendant toute la série, vous aurez amplement le temps d'en poser d'autres, de poser les mêmes la prochaine fois. Alors on en prend encore 2. Je vais dire madame, là au milieu. Là. Je suis un peu au hasard, hein, et puis je ne sais pas s'il y a quelque chose là-haut. Une ici et une là-haut. Hein, voilà.
Là, allez-y. Sans rentrer dans l'Europe, vous, Turcs, vous pourriez être très émancipateur du Moyen-Orient. On ne parle jamais du Moyen-Orient, mais ça pourrait être une entité intéressante, plutôt que de tout mettre en Europe. Par ailleurs, vous pourriez garder un lien avec l'Europe dans le cadre des accords méditerranéens. Voilà, donc moi, ma position, ça serait... que vous ne rentriez pas dans l'Europe comme tous les autres pays européens, mais que vous soyez émancipateur d'un grand groupement Moyen-Orient.
Oui.
Voilà. Vous pourriez être un pôle. Vous pourriez être un pôle et vous pourriez garder un lien avec, dans le cadre de l'accord méditerranéen.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, aussi bien en Turquie qu'en Europe qu'au Moyen-Orient. Là, bon, je crois qu'il faut pas, il faut, on ne peut pas comparer l'Union pour la Méditerranée et l'Union européenne. C'est deux choses, deux structures, deux institutions totalement différentes. L'Union pour la Méditerranée est pour l'instant une coquille assez vide. Il y a beaucoup de techniques dedans. Il y a 43 ou 44 pays, la Mauritanie, l'Albanie, ça va vraiment du pôle Nord jusqu'au Sahara. Et c'est vraiment très, très vague. Bon, une Turquie dedans, je ne sais vraiment pas à quoi elle pourrait servir. Sinon, justement, sinon à travers son union douanière qui est un succès quand même et qui peut devenir un bon modèle pour d'autres pays dans leur relation avec l'Europe. Maintenant, pour devenir le patron ou je ne sais pas quoi du Moyen-Orient, oui, éventuellement, mais moi je vois les choses autrement. Je compare souvent la Turquie à l'Espagne. L'Espagne, après la mort de Franco en 1975, eh bien, quand elle a fait acte de candidature 76, c'était un pays qui arrivait vers l'Europe, qui n'était pas souvent bien accueilli d'ailleurs par les anciens membres de l'Union européenne, je me rappelle très bien. Et l'Espagne, une fois européenne, elle a acquis une force extrêmement importante dans le monde hispanophone. Voilà un peu comment je vois le processus pour la Turquie. Je crois que une fois européenne, c'est là où la Turquie pourra exporter sa stabilité économique et politique dans la région. Je vous dis, la Turquie n'a pas attendu, n'attend pas de devenir membre pour exporter sa stabilité. Elle est très présente dans le Moyen-Orient déjà, à travers sa force tranquille, justement, économie et politique. Mais une fois membre, je crois que ce processus, cette évolution, cette force sera encore plus appuyée pour le bénéfice de tous, je rappelle. Je voudrais souligner que sans une paix durable au Moyen-Orient, l'Europe, elle sera pas en paix, elle sera jamais en paix. Voilà.
On prend une dernière question en haut. Ne vous battez pas, hein, je veux dire, vous revenez demain, vous poserez votre question demain. Peu importe, débrouillez-vous, hein, trouvez quelqu'un, mais une, pas deux.
Bonsoir, donc je vais être bref. Je fais partie des gens qui sont plutôt favorables à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Mais je voulais aborder une question qui n'a pas été abordée ce soir jusqu'à présent. C'est que lorsqu'on parle de la Turquie, on parle toujours de questions géopolitiques, de questions culturelles, de questions de civilisation. Et je voulais savoir quelle était l'orientation actuelle de la Turquie en matière sociale et économique. C'est-à-dire, est-ce que la Turquie est plutôt sur une ligne libérale, comme le Royaume-Uni, ou plutôt sur une ligne de protection sociale et de défense des droits sociaux, plus dans la tradition latine, comme la France. Donc voilà ma question.
Merci.
Je ne voudrais pas emboîter sur les deux conférences qui auront lieu exactement sur ces sujets, dont l'un dimanche ou lundi, je crois, et l'autre la semaine prochaine. Mais la Turquie est un pays dont l'économie est d'obédience libérale, oui, mais avec un fort accent sur la protection sociale quand même. Donc le gouvernement actuel essaye de courir ces deux lièvres à la fois. C'est pas facile, je reconnais. Mais voilà ce que je vous dirai pour l'instant.
Alors, avant qu'on conclue, une seconde. D'abord, je remercie le public pour sa tenue, même les contestataires qui ont été somme toute corrects. Et donc, on va remercier Gengis Aktar. Et merci.